Alain Marty vous présente Ecoradio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro d'Ecoradio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Lebon, le président du Musée Picasso Paris. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors, vous étiez en 1969, diplômé de Sciences Po et de l'École du Louvre. Et votre premier job, c'était dans les ministères, vous étiez en charge des commandes, hein, donc un monsieur très redouté.
Oh, redouté peut-être pas, mais la commande, en fait, c'est le moyen de faire confiance aux artistes, de leur dire qu'il y a un moment dans le paysage, dans le territoire, où on peut l'investir avec l'art. Voilà, c'était l'idée de faire rêver un peu les gens.
Bon, c'est très bien. C'est en 2000, alors, en force de rêver, vous allez changer de décor et vous arrivez au sein du centre Georges Pompidou à Paris. C'était une belle aventure, alors.
Oh, bah, c'est la plus magnifique institution culturelle du monde dans son domaine, hein, et donc évidemment une grosse machine.
Combien de personnes au total qui bossent?
Alors, plus de 1000.
1000 personnes.
Plus de 1000 personnes, c'est une très grosse entreprise culturelle. Et évidemment, là aussi, d'ailleurs, c'est le surnom qu'on lui a donné. On lui a donné beaucoup de surnoms, mais un surnom un peu positif, une machine à rêver. Voilà, et donc elle a produit maintenant depuis 40 ans, puisqu'on fête son anniversaire en 2017, plus de 1000 expositions. Et j'ai eu la chance de pouvoir en réaliser quelques-unes.
Et pour vous récompenser en 2010, direction la Lorraine pour un nouveau challenge.
Récompense, oui, parce que c'était évidemment pour moi la plus belle aventure professionnelle de ma vie.
Parce qu'il y avait tout à créer, Laurent.
Ah bah là, terrain de boue, hein. Voilà.
Au sens propre. Hein.
Terrain de boue au sens propre. Madame Georges Pompidou vient pour poser ce qu'on a appelé la première pierre. Hein, et on était, je me souviens très bien, vraiment les pieds sur le terrain vierge. Et il fallait tout inventer. Inventer architecturalement, ce qui est bien sûr passionnant, mais aussi inventer culturellement, c'est-à-dire...
Qui était l'archi qui a travaillé sur le projet?
Alors l'architecte à l'époque n'était pas très connu. Il s'appelle Shigeru Ban, architecte japonais. Mais aujourd'hui, il commence à être connu même dans notre pays, puisque c'est lui qui vient de réaliser la nouvelle scène musicale, à ne pas confondre avec la philharmonie de Jean Nouvel, oui. C'est celle qui a été créée sur l'île Seguin, et qui, j'invite toutes les auditrices et les auditeurs à découvrir ce nouvel équipement, est vraiment magnifique.
Et pourquoi Metz alors? Pourquoi pas Nancy? Pourquoi pas? C'est quoi la raison?
Eh bien, c'était l'envie d'avoir envie. De monsieur le maire de Metz, selon la bonne formule de notre chanteur préféré. Je crois qu'il fallait une collectivité territoriale pour porter un projet. C'était pas un projet venant d'en haut, c'était pas un projet venant de la capitale, c'était un projet, et qui l'est toujours d'ailleurs, financé par les collectivités territoriales.
D'accord.
Dans le jargon technocratique, ça s'appelle un EPCC, établissement public de coopération culturelle, et il faut retenir le mot coopération, c'est-à-dire qu'on est ensemble pour porter un projet et avec un budget qui permet de, là aussi, faire de belles aventures culturelles.
Un bon travail. Depuis 2014, c'est le Musée Picasso Paris. Alors, il y a combien, Laurent, de musées Picasso dans le monde ?
Alors, il faut distinguer deux types de musées Picasso. Les musées Picasso qui portent le nom de musée Picasso. Donc, par exemple, en France, nous avons le magnifique musée Picasso à Antibes, hein, dans le château Grimaldi, qui a été créé à la suite d'une magnifique donation de l'artiste, hein, qui a travaillé dans le château et qui a laissé les œuvres qu'il a réalisées dans ce château. Il y a le musée Picasso de Barcelone, qui est dédié plutôt à la jeunesse de l'artiste, extraordinaire ensemble. Il y a le musée Picasso de Malaga, sa ville de naissance. Et il y a la maison natale de Picasso. Picasso aussi, qui est un musée. Il y a deux musées Picasso à Malaga. Il y a un musée Picasso moins connu à Münster en Allemagne. Et puis, il y a tous les autres musées Picasso du monde qui ne sont pas connus. J'en cite qu'un, puisqu'il est à l'honneur en ce moment à Paris. C'est le MoMA de New York.
Le MoMA, bien sûr.
Voilà, pendant toute cette fin d'année, on pouvoir avoir la chance de découvrir les chefs-d'œuvre. Et en fait, c'est une sorte de musée Picasso, tellement ils ont de magnifiques chefs-d'œuvre de l'artiste, à commencer par Les Demoiselles d'Avignon, qui est peut-être l'œuvre la plus connue de l'artiste.
Mais là, quand vous arrivez, contrairement à Metz, il fallait pas réouvrir, pas ouvrir, il fallait réouvrir, c'est ça?
Oui, c'était l'exact inverse. J'étais dans un terrain de boue à Metz. Là, j'avoue que c'était une des plus belles institutions existantes à Paris. Hein. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un hôtel particulier du XVIIe siècle, en plein cœur du Marais. On a là un chef-d'œuvre architectural.
Quelle rue dans ces cas-là, Laurent?
La rue
de Torigny,
le 5. Voilà, tout le monde est bienvenu, hein, à l'invitation d'Alain, évidemment avec verre de vin offert, j'imagine.
Bien sûr, voilà, bien sûr, comme d'habitude. Avec modération, mais comme d'habitude.
On connaît la générosité de l'émission.
Alors, c'est une vraie PME. On est sur Ecoradio.fm. C'est une vraie PME. Vous avez quasiment 200 collaborateurs.
C'est ça. Alors, on a une équipe interne, hein, une centaine de personnes, et puis on externalise certaines fonctions comme le nettoyage, la maintenance, une partie de la sécurité. C'est la vie des institutions culturelles aujourd'hui. Je crois que c'est bien de faire passer le message aux auditeurs et aux auditrices que parfois, derrière le vernis culturel, qui peut paraître comme l'écume scintillante de l'événementiel, il y a une réalité professionnelle. On est là avec différents métiers, que ce soit à l'Opéra, à la Bibliothèque nationale, au Musée du Louvre, ou chez nous, plus modestement. On œuvre au quotidien pour essayer de faire rêver les gens.
Et combien de gens, justement, viennent chaque année, de personnes
Alors, au musée Picasso, ça oscille, bon an, mal an, entre 700 et 800 000 visiteurs.
D'accord. Alors, les entreprises, le B2B, Laurent Lebon, à une époque, c'était un gros mot de dire ça, mais c'est important pour vous? Vous avez un club des partenaires, vous les encouragez, vous le dites, venez nous voir, on a des choses à faire ensemble.
Le monde des entreprises, c'est essentiel. J'appartiens à une génération où la frontière entre le public et le privé est évidemment subtil. Il n'y a plus de mur de Berlin. Nous sommes en contact permanent avec le monde de l'art, le marché, les galeries. On discute, on dialogue. Et puis les entreprises ont toute leur place, notamment, basiquement, parce qu'on est un lieu d'hospitalité pour offrir nos espaces, pour découvrir nos expositions. Elles peuvent aussi, pour les plus généreuses d'entre elles, être mécènes. Finalement, la loi en France de Jean-Jacques Ayagon permet, hein, on l'oublie souvent.
Au niveau fiscalité, c'est la déduction.
60% de déduction.
Oui, c'est quand même
voilà,
juste énorme.
Ce qui est énorme.
Et donc, une entreprise peut louer, par exemple, tout ou partie du musée pour un événementiel?
Bien sûr, tout ou partie. Nous le faisons très souvent. On a accueilli, par exemple, très récemment, un défilé de mode. Voilà, donc ça arrive. Voilà, c'est...
Elles étaient jolies?
Le défilé n'était pas que joli, il était surtout très adapté au lieu, puisqu'on est un hôtel particulier, donc évidemment, il y a un circuit qui change un peu des catwalks habituels. Voilà, et donc, ça
c'était très sympa, quoi. Dans votre actualité, il y a évidemment Picasso, 1932, année érotique, Laurent.
Oui, je crois qu'il nous faut de l'amour. Toujours.
Ça voilà. Marche bien, non?
Picasso et l'amour, c'est un vaste sujet, mais l'année 1932, c'est une année un peu fondamentale pour lui, puisque c'est une année pleine de sensualité. Il est marié à Olga, son épouse, qu'il a rencontrée en 1917. On fête cette année le centenaire de cette rencontre. Ils se sont mariés en 1918. Mais l'amour l'a saisi devant les Galeries Lafayette, hein, en plein cœur de Paris. Il tombe amoureux de Marie-Thérèse Walter.
Oh là là.
Et là, voilà. Et donc, cette année 1932, c'est une des années où...
Charnière, quoi.
Charnière. Alors, il bascule d'un grand moment où il a fait des sculptures extraordinaires. Et cette année-là est une année plus de peinture. Pourquoi a-t-on choisi aussi cette année? Puisque c'est l'année de sa première rétrospective. C'est-à-dire que c'est à l'âge de 51 ans qu'il revient sur l'ensemble de sa vie et qu'il accroche sa première exposition dédiée à son parcours aux Galeries Georges Petit.
Bon, vous, c'est dans deux ans, aux 51 ans, vous allez faire les mêmes choses?
Oh, moi, je suis à la veille de la retraite. Voilà.
À l'extérieur, Picasso au Méditerranée, qu'est-ce que c'est?
Picasso Méditerranée, c'est tout simplement un moment de générosité entre institutions. On se parle, on s'écoute, on dialogue, et puis parfois on aime faire des choses. Voilà. Et donc je crois qu'il fallait rassembler des énergies autour du bassin méditerranéen. On a depuis maintenant le printemps une soixantaine d'institutions, et la manifestation va durer deux ans jusqu'en 2019, où chacun célèbre, selon son envie, selon son énergie, son lien de Picasso avec la Méditerranée. Alors, ça va de Montpellier à Nice, de Malaga à Barcelone, on est également à Rome, à Naples, voilà. Donc, chacun peut voir là un Picasso différent. C'est évidemment pas la même exposition qui circule. Chacun est incarné, par exemple, pour prendre une terre viticole, Perpignan, hein, le nouveau musée Hyacinthe Rigaud a ouvert. Et
juste à côté du centre du monde, messieurs.
Voilà, juste à côté de la gare centre du monde. Et là, on a célébré les liens de Picasso à Perpignan, qui sont très méconnu, peu de gens savent que Picasso est allé là dans les années 50.
Et vous, Laurent Lebon, à titre personnel, vos trois meilleurs souvenirs, on oublie Picasso là, de spectacles ou d'expositions, vous en avez quand même vécu quelques-unes, quoi.
Mon premier souvenir, c'est l'exposition Kandinsky au Centre Pompidou il y a une trentaine d'années, parce que ça a fait comme un choc, car l'immeuble en face de chez moi, il y avait une plaque. Ici a vécu et est mort Vassili Kandinsky en 1944. Et en fait, je ne savais pas qui était ce nom. Pour moi, c'était un peu mystérieux. Et donc, l'exposition m'a fait comme une révélation. Je ne savais pas qu'un des plus grands artistes du XXe siècle avait fini ses jours en France quand il avait fui les horreurs du nazisme.
Et vous, à titre personnel, vous adorez cuisiner également. Il paraît que vous êtes champion olympique du sabayon.
Oh, champion olympique, probablement pas, mais le sabayon est un peu un miracle, comme beaucoup de recettes de cuisine, mais lorsqu'on fait monter comme ça le sucre, le jaune d'œuf et le vin blanc, il se passe comme une alchimie, et je crois que c'est souvent ça qui me fait rêver en cuisine, c'est évidemment la métamorphose. Hein, voilà, c'est le côté transformation des plus
mais
que...
Mais in fine, c'est bon quand même, non?
Oh, le Sabayon, c'est magique, hein, qu'il soit sucré ou salé, ce côté mousseux.
Laurent, dernier livre lu.
Ah ben, le dernier livre, j'ai honte, mais c'est le catalogue de l'exposition qu'on vient de publier, Picasso 1932, année érotique, qui se lit comme un journal. Voilà, du 1er janvier au 31 décembre d'une année. Voilà, j'invite toutes les personnes à l'acheter comme magnifique cadeau de festivité.
Et enfin, pour terminer, avec un rapport avec la question précédente, côté coup de cœur, l'île de Pâques.
L'île de Pâques, bah, sans doute un des plus beaux voyages de ma vie. C'était comme un peu un symbole, un territoire au loin, et je pensais que ça allait être l'horreur absolue, une destination touristique. Et en fait, bah, c'est juste un lieu magique. C'est un bout de terre au milieu des mers, au milieu de l'océan, et là, on a une civilisation extraordinaire qui a fait sortir de la gangue volcanique ces extraordinaires sculptures, mais ce dont on se rend compte là-bas, c'est combien il y a l'incarnation dans un paysage, et j'invite toutes celles et ceux qui peuvent avoir la chance d'y aller de se précipiter.
Voilà. Vous nous rappelez peut-être l'adresse de ce musée Picasso à Paris ?
Musée National Picasso Paris, 5 rue de Torigny, fermé le lundi, hein, voilà, de 10h à 18h tous les jours, pour celles et ceux qui aiment l'art, et je sais qu'il y en a beaucoup à l'écoute de cette émission.
Merci beaucoup Laurent Lebon, le président du musée Picasso Paris. Fin de ce numéro d'Ecoradio.fm. On se retrouve mardi, parce que le lundi c'est fermé à 10h, avec de nouveaux invités.
Ecoradio.fm vous a été présenté par Alain Marty.